Et pour parler de ces nombreux sujets, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table, non pas un, mais deux jeunes meilleurs économistes. Alexandra Roulet, bonjour Alexandra.
Bonjour Raphaël.
Professeur associé à l'INSEAD, meilleur jeune économiste 2024 et membre du Cercle des économistes, bien évidemment. À votre côté, Xavier Jaravel. Bonjour Xavier, professeur d'économie, président délégué du Conseil d'analyse économique, meilleur jeune économiste 2021, membre du Cercle des économistes également. Et j'ai vu, cher Xavier, jeune économiste univers le plus cité au monde en 2024. Rien que ça, je ne savais pas qu'il y avait ces classements. Félicitations Xavier, vous êtes tous les deux invités réguliers des experts. Face à vous, j'ai le plaisir d'accueillir un ancien ministre, Éric Lombard. Bonjour Éric.
Bonjour Raphaël.
Ancien ministre de l'économie et des finances, ancien directeur général de la Caisse des dépôts et toujours un peu impliqué en politique, m'avez-vous dit. Et puis Ludovic de Sauté, bien sûr, toujours à mes côtés. Cher Ludovic, bonjour.
Bonjour Raphaël.
Directeur délégué de la Tribune. Allez, pour commencer, d'abord, c'est le dernier jour des rencontres. Un moment toujours important pour l'économie. Cette année, un moment très politique aussi. On a vu tous les candidats défiler les uns après les autres. Tous les candidats, ou presque, puisque les extrêmes n'ont pas été invités. C'était un choix du cercle sur ces rencontres d'Aix-en-Provence. Petit tour de table rapide pour commencer, voir ce que vous avez retenu de l'ambiance et des messages importants qui ont pu être délivrés cette année à Aix. Alexandra, je commence avec vous.
Alors moi, je voudrais mettre en lumière tout ce qui se passe à côté des rencontres, c'est-à-dire qu'on a maintenant la ville d'Aix, en fait, qui se transforme au moment des rencontres, avec des cafés, avec des films, avec des pièces de théâtre. Ça me paraît très, très important.
Le pour off des rencontres, comme on dit dorénavant, qui est de
c'est
plus
important
en plus grand.
Parce que, en fait, il y a une chose qui est de passer les grands messages, etc., un peu parfois entre nous. Ça peut être le reproche qui peut être fait aux rencontres d'Aix. Et là, quand les rencontres se mettent à aller dans la ville de façon très, très ouverte, etc., ça me paraît très positif. De même, il y a tout un programme jeunesse avec des agora qui sont extrêmement intéressant, tous les jeunes peuvent s'exprimer, ils ont la parole, c'est eux qui parlent.
C'est une volonté du cercle depuis des années
depuis
de
années,
donner la parole, on commence toujours par les jeunes.
Exactement. Et puis maintenant aussi une dernière nouveauté qui me semble intéressante, c'est de faire venir des think tanks du monde entier, c'est le Global Economic Dialogue, qui n'est pas en marge des rencontres, qui est vraiment intégré au programme officiel. Et ça c'est très important parce que, encore une fois, pour ne pas avoir l'impression que c'est le tout Paris qui se déplace à Aix, c'est vraiment important de pouvoir faire entendre des voix d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, du Moyen-Orient, et c'est vraiment à travers les think tanks, je trouve, qu'on les entend particulièrement cette année à Aix.
Et qui permet de garder une forme de liant diplomatique, de diplomatie parallèle, hein, là où entre les États, les nations, ça peut être compliqué parfois de plus en plus. Cela fait partie d'un dialogue absolument nécessaire, tout comme les entreprises le font entre elles aussi. Xavier Jaravel, même question pour vous, qu'est-ce que vous retenez de ces éditions?
Peut-être pour poursuivre dans ce que disait Alexandra, donc les tables rondes sont aussi évidemment ouvertes à tous et toutes, et il y a beaucoup de public qui vient de la région. Et je pense qu'il y a deux thèmes qui reviennent dans la plupart de ces sessions. Le premier sur le décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis notamment, donc les tendances de long terme sur le décrochage de la productivité qui font que l'Europe est à peu près 40% moins riche par habitant aujourd'hui par rapport à ce qu'elle aurait pu être si on avait eu le même taux de croissance de la productivité.
Le salaire
depuis
moyen
les années
en France
90.
Serait à 3300 euros aujourd'hui si on avait suivi
c'est
cette
ça,
progression
voilà, de grandeur.
Plutôt que 2200 à peu près.
Donc ça c'est un message qui est très souvent mis en avant, quasiment, il me semble, quelle que soit la table ronde, il y a toujours des liens avec cette tendance de long terme. Et sur les solutions, il y a moins peut-être de convergence, mais en tout cas, il y a ce thème de la jeunesse qui ressort, comme disait Alexandra, dans l'organisation, mais aussi dans le contenu, d'investir davantage dans l'éducation, d'investir davantage dans la formation professionnelle des jeunes.
Oui.
Donc ça, c'est un des, voilà, je pense que c'est ces deux grands termes, le décrochage et investir dans l'avenir, qui me semble assez présent dans la plupart des tables rondes.
Bon, je rappelle qu'on a raboté les aides à l'apprentissage dans le dernier projet de loi de finances, mais qu'on a préservé les crédits d'impôt des retraités, notamment. Donc le débat fait rage, effectivement, entre générations. Éric Lombard, je le rappelle, ancien ministre de l'économie et des finances, vous êtes un habitué des rencontres d'Aix-en-Provence. Qu'en retirez-vous cette année?
Je suis effectivement un habitué depuis très longtemps. J'en retiens deux choses. D'abord, en fait, beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie positive. Les chefs d'entreprise, quoi qu'on en dise, ils sont là, ils investissent, ils innovent, ils y croient et ils recrutent d'ailleurs. Et il n'y a pas que les chefs d'entreprise, les jeunes, j'ai été comme beaucoup dans le dialogue avec les jeunes qui se préparent à entrer à la fois dans la vie active et dans le débat politique. Et cette idée que nous allons collectivement nous en sortir et repartir de l'avance, qui effectivement est bien nécessaire. Et le deuxième sujet qui est lié, Et ça qui est merveilleux à Aix, c'est cette qualité de dialogue entre personnes qui ne sont pas forcément d'accord,
oui.
Que ce soit entre des dirigeants. Moi, j'étais sur une table ronde avec une ancienne ministre néerlandaise et le président de la Bundesbank. Bon, voilà, on peut dialoguer des finances publiques, on n'est pas forcément dans la même histoire, mais avec l'ensemble des intervenants, les désaccords se traitent dans le dialogue, dans le respect mutuel, dans la recherche de solutions, et ça, c'est un modèle peut-être pour l'ensemble du fonctionnement du
pour
pays.
La suite, le débat
parce
plutôt que le combat.
C'est efficace, c'est beaucoup plus agréable, ça va beaucoup plus vite, et puis c'est comme ça qu'on trouve des solutions.
Après, Alexandra l'a souligné un peu, et il y a quand même une forme d'entre-soi aussi à Aix-en-Provence, c'est une critique qui est régulièrement adressé avec ce choix du cercle qui a été très net de ne pas d'accepter
Alors,
l'extrême ni à droite ni à gauche.
Je veux revenir là-dessus parce que je fais partie du conseil d'administration qui pilote ces journées, donc on a pris la décision au conseil d'administration. Les responsables politiques qui sont venus ici, et ils étaient très nombreux, notamment les présidentiables, ont eu un dialogue sur les sujets que nous avons mis à l'ordre du jour. Et un dialogue respectueux, dans les temps impartis, et sans vouloir dire je suis présidentiable, je suis Premier ministre et je veux plus de place.
Mais pardon, Jordan Bardella est invité à la REF du MEDEF et tout se passe très bien, tout comme...
Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'il a respecté les règles. Mais quand ces partis sont venus ici parce que c'est arrivé, ils en ont fait des tribunes. Ils en ont fait des happenings. Et ils ont dévoyé la culture, qui est une culture respectueuse de... parité entre l'ensemble des intervenants, les universitaires, les entreprises, les jeunes. Et c'est difficile d'inviter des gens qui d'abord ont une vision très différente. Mais pourquoi pas, il y a déjà des gens qui ont une vision très différente.
C'est la moitié.
Et surtout qu'ils ne veulent pas s'inscrire, qu'ils ne veulent pas s'inscrire dans la méthode de dialogue qui est la nôtre. Et pardon d'en parler deux minutes de plus, mais quand j'ai préparé le budget 2025, j'ai reçu tous les partis. Et comme j'étais dans une responsabilité politique, j'ai évidemment reçu, y compris la France Insoumise et le Rassemblement National. Nous n'avons pas pu nouer de débat sur le budget. Le Rassemblement National n'a voulu parler que d'immigration, qui est un sujet de débat honorable, et ce n'était pas la question. Et quant à la France Insoumise, ils ne sont pas venus du tout. Donc, je respecte les idées de ces deux partis, je connais leur représentativité, mais il y a des règles de dialogue si on veut progresser, et je pense que c'est très important à Aix, et on ne doit pas déroger là-dessus.
Alexandra voulait dire un mot avant de passer à Ludovic.
Oui, on a eu ce débat aussi entre membres du cercle. Personnellement, je pensais que ce que le MEDEF avait fait l'an dernier
à la REF,
le panel auquel vous faites référence avait bien fonctionné, de mon point de vue. De mettre tous les candidats. Je trouvais que ça avait été aussi un dialogue respectueux et intéressant, que Patrick Martin d'ailleurs avait fait respecter tous les intervenants, y compris
tout était très cadré. C'est vrai que ça a été salué, voilà.
Mais c'est un débat qu'on a eu entre membres du cercle et pour le cercle.
Tout le monde n'était pas d'accord. Hein. C'est vrai qu'il y a eu un vrai débat, une vraie discussion.
Voilà. Je pense que la majorité clairement des membres du cercle était opposée au fait de faire intervenir les extrêmes, mais aussi avec l'idée que c'est quand même des rencontres économiques et non pas des rencontres politiques.
Oui.
Et il y avait cette crainte de faire dériver trop le débat vers quelque chose qui était juste le débat vers les présidentielles, alors qu'encore une fois, il y a tout le sujet aussi international qu'il ne faut pas oublier. On n'est pas juste un événement franco-français.
Oui.
Et deuxièmement, c'est quand même des débats de fond, économiques. Donc on voulait avoir des débats rationnels, pas donner des plateformes, comme Éric Lombard l'a très bien expliqué. Et donc il y avait un souci de préserver la cohésion des membres du cercle. Et donc à partir du moment où il y avait une majorité très claire, très nette, qui se dessinait pour ne pas faire intervenir les extrêmes, il était évident qu'il fallait respecter cette position du cercle.
Bon, c'est très clair. Ludovic de Sauté, qui a bossé comme un fou pendant 3 jours pour couvrir pour la tribune cet événement exceptionnel. Allez voir sur le site, vous allez avoir plein d'informations formidables.
Merci, et merci aux équipes. Non, je rebondis sur ce que partageait Eric, parce que je pense qu'on a tous senti une énergie réellement cette année. Moi, ce qui me marque, c'est quand même on avait une double perspective. Hein. C'était il y a deux mots qui sont ressortis, c'est évidemment budget et présidentiel. Donc ça c'est la petite musique de fond. Moi, ce qui me marque et qui se confirme, j'allais dire presque d'heure en heure, c'est un changement d'attitude, sûrement nourri aussi par le fait d'avoir voulu quand même mettre de côté les extrêmes, c'est-à-dire soyons capables de nous asseoir, soyons capables de poser des diagnostics et soyons capables de retrousser les manches. Et là, je trouve que les rencontres cette année, j'espère que c'est le point de départ d'une énergie sur lequel on va pouvoir construire une logique de compromis utile.
Oui. Et
c'est
ça,
important.
Ça, c'est la version optimiste.
Ouais, oui.
Non, pour les politiques.
Mais je suis.
Mais le constat est partagé.
On va y arriver.
Non, c'est-à-dire que il y a évidemment là, vous allez dire, ça il est gentil, c'est un bisounours, c'est tout
mais
ça.
Mais pas du tout. On aime nourrir l'optimisme. L'optimisme de la volonté.
Je suis pas parce que je pense qu'on commence à être dans le registre. On va plus loin que l'autosuggestion là. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'est déclenché et notamment, bah, d'ailleurs, on en parlait hier ensemble sur les experts. Il s'est passé des choses importantes ces dernières semaines. Je pense au détroit d'Hormuz. La réaction des Français qui sont pas descendus dans la rue sur le prix de l'essence et tout ça.
Oui,
c'est-à-dire qu'il se passe des choses sur la compréhension des enjeux économiques. Et là, ce qui est en train de se jouer début juillet est important parce que on se retrouve peut-être de façon un peu dans l'entre-soi. Mais derrière, on va tous s'éclater, j'allais dire, dans la vie économique du pays. Et je pense que on va être porteur d'un discours en disant il y a des chemins possibles, avec une crainte, hein, c'est la présidentielle. C'est-à-dire qu'il y a des chemins qu'on estime impossibles et incompatibles avec les enjeux économiques qu'on a traités.
Ah oui. Bon, mais on va voir si l'esprit d'Aix-en-Provence se diffuse de partout dans les campagnes françaises durant tout l'été. On le souhaite parce que les débats ici sont quand même absolument formidables. Et un des grands débats qui ont animé les soirées hier soir, beaucoup. Évidemment, alors vous l'avez dit, hein, on a parlé budget beaucoup hier. Et c'est le sujet de la fiscalité. Ah oui, on est quand même revenu avec une nouvelle taxe. Est-ce une taxe ou pas ? C'était un peu la question posée hier soir après les déclarations du Premier ministre Sébastien Lecornu. C'était jeudi soir, ici même, qui a dit chiche. Chiche pour reprendre une proposition de Philippe Aguillon, qui est de s'attaquer aux grands héritages, mais vraiment les très 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 grandes fortunes des milliardaires, pour orienter une partie de ce patrimoine vers des fonds d'intérêt public destinés à la recherche, l'éducation ou à la défense. Une sorte de fondation un peu en quelque sorte, comme ce qu'on peut voir aux États-Unis, ou à défaut, s'ils ne le font pas, d'être taxés là, véritablement très fortement. Bon, le Premier ministre ajoute derrière qu'il va falloir trouver quand même 6 milliards dans le prochain budget pour équilibrer certains comptes. Et donc les débats hier soir, c'était beaucoup. Est-ce que c'est une nouvelle taxe ou un moyen d'éviter une taxe Zucman de manière assez habile ? Alors, bonne ou mauvaise idée, Alexandra Roulet ?
Alors, je pense qu'en fait, ça contribue tout à fait à ce que Ludovic essayait de dire, de construire ensemble. Donc, le point de départ de Philippe Aguillon, c'est de se dire... Alors, je pense que là où on aura peut-être le débat avec Xavier, c'est que est-ce qu'il y a déjà un problème à traiter ? Est-ce que la concentration des richesses au sommet...
On peut commencer par ça.
C'est peut-être parce que avant de parler de l'outil, il y a est-ce qu'il y a
certes, le constat. Non, mais voilà. Posons le constat. Est-ce
alors,
qu'aujourd'hui il y a trop de concentration du capital entre trop
de là, il me semble que même si les priorités qu'on doit avoir, c'est évidemment, et là je pense qu'on sera tous assez d'accord, l'éducation, la productivité, l'emploi, la souveraineté. Il n'empêche que pour justement construire ensemble, comme vous le dites, pour en fait faire société, donc pas tellement nécessairement dans un enjeu de finances publiques, mais plutôt vraiment dans un enjeu de répondre en fait aux préoccupations des citoyens, on peut pas considérer qu'il n'y a pas de sujet sur le fait qu'il y a des fortunes au sommet des distributions qui se sont énormément accentuées dans les dernières décennies. Ce n'est pas propre à la France, pas du tout. C'est un sujet qui est mondial, c'est la mondialisation qui fait que les sociétés empires un peu ont maintenant donné lieu à des fortunes qui sont très importantes. Et je pense que c'est intéressant l'idée de Philippe qui est de dire il faut que ces personnes-là remettent dans le pot commun.
Oui.
Et donc là, ce n'est pas des fondations comme aux États-Unis, à ma compréhension, parce que ce seraient des fondations gérées par la puissance publique.
Oui.
C'est quand même une distinction.
C'est la différence entre les deux rives de l'Atlantique.
C'est quand même une distinction, parce que le problème de du modèle de philanthropie, c'est que du coup, la personne très fortunée peut exactement choisir dans quoi elle investit et ce qu'elle choisit de soutenir. Alors que là, il y a quand même l'idée que ce seraient des fondations d'intérêt général gérées par la puissance publique, essentiellement, je crois, pour des sujets de souveraineté. Avec l'idée que c'est ce qui fait un peu consensus dans la population. Donc, soit des sujets de souveraineté, soit des sujets d'éducation, vraiment construction d'avenir. Et l'idée, c'est que c'est d'essayer de trouver une façon dans laquelle peut-être les grandes fortunes elles-mêmes se reconnaissent, parce qu'elles peuvent avoir l'impression de contribuer à l'intérêt général, qui est quelque chose dans lequel dont elles peuvent être fières, en fait, plutôt que de donner leur argent et de pas trop savoir à quoi ça va servir, et qu'en même temps, ça répond à une préoccupation des Français. Donc, après, je pense qu'il faut vraiment voir les détails, et là, c'est là que ça devient peut-être plus compliqué.
Bah oui,
mais sur l'esprit, je pense que l'esprit répond exactement à ce que Ludovic essayait de mentionner, qui est de construire ensemble, de bâtir des compromis.
Bon, et la mécanique reste transférée du capital privé vers du capital public, alors certes pour le bien commun. Votre avis, Xavier Jaravel ?
Peut-être pour rappeler un point qui est que la lame de fond, c'est celle qu'on appelle la grande transmission. C'est-à-dire qu'avec le vieillissement et la hausse de la concentration du patrimoine, mais tout en haut, c'est-à-dire le 0,001% des contribuables, vous allez avoir de plus en plus une grande partie du capital qui est hérité, aux alentours des 2/3 dans les 10 prochaines années, alors qu'il y a 50 ans, c'était plutôt 1/3. Et donc, ça pose effectivement la question de cette transmission. Et il y a plusieurs
types possibles. On peut rappeler les quantums, hein. La grande transmission, c'est quand même entre 5 et 9 000 milliards d'euros, entreprises tout compris, mais entre 5 et 9 000 milliards d'euros qui vont changer de main d'ici 2040.
Oui, après, c'est un phénomène de long terme, et ça dépend aussi des donations anticipées, etc. Et donc, il y a tout à fait un sujet, il me semble, sur l'héritage. Et après, on peut avoir effectivement des approches un peu hybrides. Je pense que, donc, en fait, tout ça a été cité dans une... Enfin, à la base, c'était une idée qu'on avait mentionnée dans une interview avec Alexandra et avec Philippe Aguillon pour l'Express, et qui faisait aussi partie d'un package. Donc, il y a aussi d'autres mesures, par exemple, plus directes sur la taxation de l'héritage. Il y a des dispositifs comme le Dutreil, qui sont un peu dévoyés.
Mais il faut protéger ou pas dévoyés. On en parle à chaque PLF dorénavant. Ouais, Dutreil, avec des grosses craintes du côté des chefs d'entreprise qui nous écoutent.
Du coup, pour remettre ça en perspective, le Dutreil, c'est censé permettre la transmission d'entreprise. En pratique, vous avez le droit de mettre des biens personnels jusqu'à 49% de la valeur concernée par le pacte Dutreil. Donc, c'est assez évident qu'il faut enlever ces biens personnels de l'enveloppe du Dutreil.
Oui.
Et donc il y a
des biens sanctuaires, comme on dit.
Il y a plein d'autres. Il y a aussi des sujets plus structurels. Par exemple, la politique de la concurrence, c'est aussi une manière de long terme, mais probablement beaucoup plus puissante, de permettre à ce qu'il n'y ait pas la constitution de rente. Et donc moi, ce qui m'inquiète juste un peu, c'est qu'on reste un peu en boucle sur des débats qui sont intéressants mais pas totalement novateurs, et qu'en revanche on fasse moins sur, on n'amorce pas les virages sur la productivité, sur l'éducation, sur la politique de l'emploi, qui est d'ailleurs les trois priorités qu'on avait identifiées au début de cette interview. Alors l'un n'empêche peut-être pas l'autre, mais le temps médiatique est limité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle du coup plutôt de cette fiscalité que d'autres priorités.
Et de combat idéologique plutôt que de pragmatisme économique parfois et bien souvent, et d'efficacité. C'est un sujet que vous avez beaucoup agité, Éric Lombard, ce sujet de la taxation des plus riches, en indiquant que vous aviez vu à Bercy des fichiers de milliers, de plus de dizaines, je sais plus si vous avez dit des dizaines de milliers ou plus de 10 000 foyers, en tout cas, de gens soumis à l'IFI, mais qui ne payaient pas l'impôt sur le revenu. Quelle est votre analyse sur, un, la proposition qui a été faite, et ex post, quelle... bilan vous tirez de cette séquence sur la taxation des patrimoines à l'IFI qui ne payaient pas d'IR?
Il faut essayer de distinguer les questions. Il y a une première question qui est le partage de la richesse dans l'entreprise entre le capital et les salariés, puisqu'on a Aix. Hommage à l'animateur des journées d'Aix, Jean-Hervé Lorenzi. Dans son dernier livre, il démontre que l'optimum historique, c'est 1/3 pour le capital, 2/3 pour les salaires. Ce qui permet aux salaires de monter, de consommer plus et de faire la croissance économique. C'est ça qui a fait le succès économique de l'Europe et des États-Unis au XXe siècle. Et c'est ça qui a déréglé. Et c'est ça qui explique ce qui est un grave problème. C'est qu'on a beaucoup de salariés dont le pouvoir d'achat n'augmente pas. Donc il ne faut pas omettre cette question qui est économiquement, j'en parle sous le regard de deux experts, la plus importante. La deuxième question, c'est le patrimoine, donc ceux qui détiennent les entreprises. Et là, à l'évidence, on a un problème, une question à se poser, c'est que aussi bien les salaires n'augmentent pas, que le patrimoine de ceux qui ont un patrimoine, et pas seulement les chefs d'entreprise, pour des raisons bien documentées aujourd'hui, a augmenté de façon très nette. Mais surtout, ce qui a été dit de façon très claire lors de la commission d'enquête du Sénat sur les hauts patrimoines, et je cite les hauts fonctionnaires qui sont exprimés, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui ont un patrimoine élevé peuvent décider de leur niveau de revenu. Or, la base de la taxation en France, de la contribution et au financement de la sécurité sociale et au financement de l'État, ce sont les revenus. Et donc on a effectivement, c'est ce qu'on a observé à Bercy et ce qui a été bien documenté par cette commission d'enquête de l'Assemblée nationale, des personnes qui ont des patrimoines importants, mais qui pilotent le revenu de telle sorte à ce que leur contribution à la sécurité sociale à l'État soit extrêmement modeste, ce qui pose deux problèmes.
Éric Lombard, mais ce en quoi on peut vous répondre, ce sont les bénéfices non distribués effectivement, mais qui ont été déjà taxés en amont, tous ces bénéfices, ils ont déjà payé l'impôt dessus, alors pas les cotisations.
Je connais l'argument, Raphaël, mais C'est exactement ce qui se passe dans l'entreprise. L'entreprise paie l'impôt sur les sociétés, paye des charges sociales. Le salarié lui-même paye l'impôt là-dessus. C'est comme ça qu'on fonctionne. À chaque fois, l'impôt est prélevé un peu en cascade. Et après, le salarié, quand il transmet, il paye lui-même un impôt sur les successions. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et le dividende, effectivement, qui vient d'un bénéfice qui a été taxé, lui-même est taxé dans les mains du propriétaire. Et c'est quand même comme ça depuis toujours. Mais ce que nous avons vu, c'est que ça signifie que les personnes qui ont un patrimoine important, leur contribution au fonctionnement de l'État, quand même, nous dépensons
57%. On ne taxe pas assez les riches en France, vous trouvez ?
Les chiffres, par exemple, de l'Institut des politiques publiques montrent que le taux de taxation du quartile de 0,1% supérieur, les 0,1% qui ont les plus hauts revenus et le plus haut patrimoine, est inférieur à la moyenne. C'est quand on regarde l'ensemble des impôts payés par les Français.
Un tout petit peu dégressif. Ça, vous l'avez étudié aussi.
Un vrai sujet. Alors,
oui.
De ce fait, il faut voir que le débat monte, y compris en Californie, chez les fondateurs de l'IA,
oui.
Des gens comme Dario Samedi d'Anthropique, comme quoi, dans un monde où il y a de plus en plus de capital et par ailleurs de moins en moins de travail,
non, ça pose une vraie question.
S'il n'y a pas une réflexion
oui.
sur la contribution du capital au fonctionnement du bien commun, et après je reviendrai sur la proposition de mon ami Philippe Aguillon, qui est une autre question, mais je pense que cette question elle est importante et elle doit être traitée dans le débat politique avec différentes options, et effectivement vous en avez cité plusieurs.
Sauf que ce qu'on sait, c'est que le travail est fixe, le capital est mobile, et que quand on a aligné la fiscalité des deux, cher Éric Lombard, on a vu les recettes s'effondrer sur
oui, mais, alors, pardon,
les dividendes, et quand on a remis une flat tax, là, les dividendes, les recettes fiscales
ne
sont pas volées. Hein.
Mais je veux faire observer que la proposition, et on ne va pas faire de technique que oui. j'ai faite,
on est dans les experts, hein, on peut faire
la technique. Elle est beaucoup moins mordante pour les détenteurs de capital que ne l'était l'ISF, tel que Nicolas Sarkozy et François Fillon l'ont amélioré, si je puis dire, en 2011. Donc on n'est pas non plus dans un gauchisme échevelé. Et échevelé, pour moi, ça s'applique mal.
Xavier Charavel, juste un point sur cette dégressivité de l'impôt qui fait tellement polémique en France. Alors, très franchement, moi, je vous rejoins entièrement. Je pense que les vraies questions de prospérité française ne reposent pas sur ce sujet-là. Dopons la croissance, la productivité et l'emploi absolument de partout. On vivra beaucoup mieux. Mais cette question de la justice fiscale, elle est majeure en France et dans l'opinion publique. Qu'est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on a une réelle dégressivité ou pas ? Il y a toujours le débat sur cette toute infime partie.
Effectivement, peut-être pour résumer les chiffres que Éric Lombard commençait à donner, c'est vraiment au sein du 0,001%.
C'est 1800 voilà, ménages.
Et par rapport au 0,1%. Donc en gros, il n'y a pas de débat jusqu'au 99,9% des gens. Et ensuite, voilà. C'est vraiment tout en haut, avec une certaine mesure du revenu qui prend compte les revenus de l'entreprise. Donc c'est pas le revenu fiscal habituel. Et après, il y a tout un débat justement d'experts sur qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. C'est un peu le débat que vous avez commencé à avoir. Si on prend en compte l'IS, si on prend en compte les impôts de production, d'autres le prennent pas. Après, il y a aussi des cas qui sont très différents, qui utilisent des holdings patrimoniales pour en fait réinvestir cet argent avec un contrôle total, ou qui laisse l'argent totalement dans l'entreprise. Donc il y a des cas assez différents. Il y a aussi une grande difficulté à mesurer les enjeux pour les finances publiques. Donc l'étude de l'IPP en l'occurrence a été révisée entre sa précédente version et la version actuelle.
Oui, il y a une réactualisation.
Et les enjeux, donc cette sous-taxation qui était de 15 milliards dans la version précédente est maintenant de 5 milliards. Parce qu'en fait, il faut faire pas mal d'hypothèses que les mesures sont imparfaites. Donc tout ça pour dire qu'on peut avoir ce débat, très, très bon débat. Je pense que si on avait que ce débat, ce serait quand même un problème, et que par ailleurs, dans une période de finances publiques contraintes, parier sur ce levier comme un levier majeur de rétablissement des comptes publics serait...
On a 100 milliards à trouver, c'est pas sur les... Alexandra, puis...
Une phrase, parce que justement, il faut peut-être élargir aussi à d'autres sujets, mais c'est vrai que je pense pas que ce soit un outil de rétablissement des finances publiques pour les raisons que Xavier mentionnait, pour les raisons que vous mentionnez vous-même. Le but n'est pas nécessairement de maximiser les recettes fiscales, c'est pas le meilleur moyen d'avoir des recettes fiscales. C'est un sujet de contrat social. Oui. C'est un sujet, on ne peut pas dire qu'on lutte contre la fraude sociale en bas et pas lutter contre l'optimisation fiscale en haut. Je pense que c'est ça le sujet. C'est un sujet en fait éminemment politique, au-delà des débats d'économie.
Alors, parole aux politiques et puis un mot, Ludovic.
Mais je vais dire la même chose avec mes mots. Le sujet dont on parle, dans toutes les hypothèses, on parle de peut-être 2 milliards d'euros. Donc ce n'est pas du tout un sujet de finances publiques, c'est un sujet d'équité, mais c'est ça qui est vraiment important, précisément, c'est l'équité. On était tous d'accord sur tous les plateaux que nous allons devoir, pendant plusieurs années, faire du rétablissement de nos comptes publics, qui demandera un effort partagé. Et si l'effort n'est pas partagé, comment voulez-vous que les Français l'acceptent s'ils ont l'impression que même 0,001% échappe à cet effort? Donc, c'est un
on peut pas dire, ça c'est quand même quelque chose qu'on entend, mais cher Eric, pardon, il n'échappe pas à l'effort. Il participe quand même aussi énormément à l'augmentation des recettes. Il n'échappe pas à l'impôt, on est d'accord. Ils le réduisent, ils optimisent un peu, tout comme nous on fait aussi peut-être.
Alors, pardon, c'est là où je reviens sur ma distinction initiale. C'est là où je reviens à ma distinction initiale. Il y a l'entreprise et il y a les propriétaires d'entreprise. Et ce qui a été documenté par l'Assemblée nationale avec l'aide de Bercy, c'est que 133 000 ménages avaient un revenu fiscal de référence quand on regarde tous les revenus, y compris les revenus du patrimoine immobilier de l'entreprise, qui est extraordinairement modeste.
Oui.
Pardon, c'est maintenant chiffré.
133 000.
Donc, 133 000, si on prend un seuil de 2 millions d'euros pour analyser les revenus, enfin je ne vais pas rentrer, tous les chiffres seront rendus publics, d'ailleurs je pense dans les jours qui viennent, par l'Assemblée nationale. Donc on est vraiment, effectivement, dans le symbolique, parce que ça ne va pas non plus changer la vie de ces gens-là. Et moi je ne souhaite pas d'ailleurs que ces personnes fortunées quittent le pays. Il faut évidemment que le contrat social, y compris fiscal, les incite à rester. Et ce sont des citoyens qui contribuent fortement, et certains étaient là hier, et oui, j'admire ce qu'ils font, c'est pas ça la question. Il faut, vous savez ce qu'on dit en Grande-Bretagne de la justice, on dit que la justice ne doit pas être juste, elle doit apparaître comme étant juste. Et c'est très important devant l'ensemble des Françaises et des Français qu'ils aient la conviction que l'effort est partagé. Et comme on est dans une période de débat sur un redressement de nos finances publiques, ce sujet, évidemment que c'est sans doute moins important que la productivité, la recherche, les jeunes, la formation.
Oui, tout ce que c'est vous un avez sujet juste. Politique, d'abord
mais avant nous,
politique.
Nous sommes tous d'accord sur ces points précédents, alors que là-dessus, il y a un débat, je pense qu'il faut qu'il soit tranché.
Bon, Ludovic, un dernier mot, très rapide.
Sur Aguillon, je pense qu'il faut recentrer le débat. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un objet politique. Hein, c'est une forme d'antidote Zucman, ni plus ni moins. Et ce qui est important, hein, c'est-à-dire ce qui est honnêtement. Maintenant, ce qui va être très complexe, parce que c'est associé quand même à une héritaxe, il faut pas l'oublier.
C'est Aguillon. Ça.
Je vais l'appeler comme ça. Mais ce qui va être très complexe, c'est que je pense qu'on est parti, malheureusement, sur une mauvaise trajectoire, parce que c'est vu comme potentiellement un dispositif qui serait un correctif des finances publiques et tout ça.
Oui, c'est ça, un nouvel impôt, quoi. Bien sûr.
Et en ça, on va se planter. Collectivement, on va se planter. Et puis, par ailleurs, ça ne pose pas, tu le disais David à l'instant, ça ne pose pas les bonnes questions. C'est-à-dire que en face, on a un problème d'attractivité, d'environnement qui fait que, j'allais dire, comment l'argent circule, comment l'investissement est débloqué dans ce pays, ça ne répond absolument pas. Et je ne crois pas, honnêtement, peu importe le terme, une fondation pour avoir la capacité d'alimenter avec quelques milliards des grands dossiers que sont l'intelligence artificielle, la défense, tout ça, qui demande un pilotage beaucoup plus structuré.
Allez, il est 9h30, on se retrouve après une très courte pause. Restez avec nous, on va parler, c'est le 4 juillet aujourd'hui, donc de la déclaration d'indépendance, les 250 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis. On va voir ensemble ce qui est devenu le modèle économique américain. Ne quittez pas.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.